Et une nouvelle édition de l'économie en question, une édition spéciale en ce jour de réserve, veille d'élections législatives en France. Nous choisissons de nous éloigner un peu de l'actualité économique immédiate pour mieux commenter son rapport avec la recherche en économie, celle qui s'effectue dans les laboratoires et les universités, celle qui élabore des théories nouvelles, qui publie ses travaux dans les grandes revues scientifiques et qui réfléchit aussi aux moyens de sa diffusion. Nous recevons donc ce matin la présidente du jury et deux lauréats des prix de l'Association française de sciences économiques, AFSE. Ces prix remis chaque année par des économistes pour récompenser des travaux remarquables, peut-être plus académiques que les ouvrages couramment publiés dans ce domaine, mais dont on va voir tout de suite qu'ils rejoignent les préoccupations et les choix de nos sociétés. C'est donc notre sujet ce matin, quand la recherche économique vient à la rencontre de la pratique. Et j'ai le plaisir de recevoir Kathleen Schubert, professeure d'économie à Paris 1 et à l'école d'économie de Paris, ancienne présidente de l'AFSE et qui était présidente de ce jury 2017. Et puis en duplex à Toulouse, Jérôme Vicente, professeur de sciences économiques à Sciences Po Toulouse, auteur de l'économie des clusters, paru à la Découverte, donc l'un des lauréats. Et autre lauréate, Emmanuelle Auriol, professeure à Toulouse School of Economics, TSE, auteure, elle, de « Pour en finir avec les mafias, sexe, drogue, clandestin, si on légalisait », paru chez Armand Collin. Et puis je vous ai demandé à chacun, et ce sera aussi une question à poser à Guillaume Duval, journaliste à Alternatives économiques, de venir avec un chiffre, c'est notre dernière séquence en toute fin d'émission. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Commençons avec vous peut-être, Kathleen Schubert, donc l'AFSE, votre association qui attribue, je l'ai dit, plusieurs prix d'ailleurs, hein, pas seulement celui-ci. Celui-ci est intéressant parce que c'est un prix des meilleurs livres d'économie à destination des étudiants. Mais il y en a d'autres, le prix Edmond Malinvaux par exemple, du meilleur article publié par un économiste de moins de 40 ans, je le précise, ou également un prix économie de l'AFSE. Ce que vous voulez, je l'ai dit très rapidement, mais c'est vous démarquer peut-être aussi de la manière plus médiatique dont on parle fréquemment d'économie.
L'AFSE, c'est avant tout une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des économistes, à la fois de l'université, mais aussi des administrations et un petit peu des entreprises. Donc on n'a pas du tout d'envie particulière de se démarquer. On a peut-être envie d'avoir une méthodologie commune, disons, c'est-à-dire d'étudier des problèmes économiques de façon rigoureuse, avec de la théorie, en regardant les données, qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter, en évaluant les politiques. Donc c'est plutôt une méthodologie, disons que...
Oui, mais voilà. J'insiste un petit peu, est-ce que cela n'est pas suffisamment fait de votre point de vue, quand on parle d'économie ?
Quand on parle d'économie, on s'aperçoit assez vite qu'il y a des théories qui se contredisent, que c'est très très difficile en fait. Il n'y a pas une parole absolue.
Ce qui est plutôt sain d'ailleurs, oui.
Ce qui est plutôt sain. Et donc, voilà, les travaux qu'on veut promouvoir, c'est vraiment ces travaux qui essayent de comprendre les phénomènes et puis de donner vraiment des chiffres, de s'appuyer sur des données pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, plus que ce qui est fait, disons, habituellement, oui. dans le monde non académique. Disons.
Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que votre association propose, c'est assez classique, des colloques, des publications et des formations. Et là, il y a vraiment un parti pris pédagogique avec des références à la théorie, notamment des MOOC, hein, ces fameux cours diffusés via Internet, avec l'École nationale supérieure de Lyon, par exemple, ou les journées économiques à Lyon également. Le tout dernier, je crois, enfin qui doit être prévu, c'est quoi l'écho ? C'est une question. Qu'est-ce qui est prévu là ? C'est vraiment d'expliquer davantage, de rentrer un peu plus à fond dans les...
C'est d'expliquer en mots simples.
Dans ce domaine, oui, en mots plus simples.
En mots simples, parce que très souvent, les non-économistes ont l'impression qu'on parle d'une espèce de jargon complètement très particulier, très propre à la profession. Et c'est vrai que c'est pas bon. Il faut pouvoir s'exprimer de façon simple. Et c'est ça, c'est-à-dire expliquer des choses compliquées avec des mots simples que tout le monde peut comprendre. Parce que c'est possible, en réalité, je pense.
Voilà. Alors, à Toulouse, donc, je l'ai dit, TSE, deux de vos lauréats, Jérôme Vicente, Emmanuelle Auriol. Sur ce point, avant d'en venir un peu plus dans le détail de vos travaux respectifs, ce point hein, qui consiste à diffuser avec de la théorie. Ou peut-être allons directement sur vos travaux avec vous, Emmanuel Auriol, puisque je sais que vous insistez beaucoup là-dessus. Hein. Vous ne prenez pas parti dans un livre qui peut paraître un peu provocateur pour en finir avec les mafias si on légalisait. Vous ne prenez nullement parti, vous vous appuyez vraiment sur des études, comme vient de les décrire Kathleen Schubert.
Oui, je pars du principe qu'il y a une demande sociale pour, par exemple, un contrôle des consommations de drogue. Je ne porte pas de jugement là-dessus. J'essaye de voir s'il y a des fondements économiques à ces restrictions qu'on veut imposer. Donc, par exemple, et je le traduis, donc je traduis les concepts d'économie comme les externalités, en l'occurrence négatives. Donc, je les traduis en mots de façon à expliquer au grand public qu'est-ce que l'économie peut apporter sur un sujet comme, par exemple, le contrôle des consommations de drogue. À quoi ça sert? Pourquoi c'est utile? Et j'essaye d'en faire la démonstration, voilà, avec des exemples concrets, des histoires, de façon à ce que ce soit vivant et effectivement peu jargonnant.
Oui, vous appuyez donc, je l'ai dit, hein, sur trois exemples, le sexe, la drogue, les clandestins, sur la drogue et essentiellement sur le cannabis. Hein. Vous dites la France est un pays prohibitionniste, hein, on le rappelle, dans une ornière selon vous, et cela semble assez facile à démontrer.
Oui, justement. Alors, qu'est-ce que c'est que la prohibition, hein? C'est une politique, en fait, de l'offre, hein, en termes économiques. Donc, on vise à supprimer des consommations en supprimant l'offre légale. Le problème, pour certains marchés, la demande est très importante. Donc, elle va être frustrée, cette demande, puisqu'il n'y a plus d'offre légale. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Toujours. Eh bien, il y a des criminels qui y répondent, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, évidemment, sur ces marchés. C'est vrai en matière de sexe, c'est vrai en matière donc de clandestins, et c'est vrai en matière de drogue. Du coup, j'essaie. Alors, ça marche pas du tout, puisque on a à la fois les consommations de produits frelatés, des abus de droits de l'homme dans le cas des clandestins et des prostituées, et on a évidemment des mafias qui s'installent. Et il faut voir que les chiffres d'affaires de ces mafias, hein, c'est de l'ordre de 850 milliards.
Ouais.
Voilà. Donc, ça veut dire
vous dites plus de 800 milliards, c'est plus important que l'industrie pharmaceutique, le chiffre.
Oui, c'est vrai
même.
Qu'on n'a pas d'idée ce que ça veut dire ces chiffres-là, donc donne des points de comparaison.
C'est énorme, donc des chiffres, il en faut des chiffres. Oui.
Oui, c'est plus que l'industrie pharmaceutique. Donc évidemment, on voit bien les dégâts que ça peut faire, parce que l'industrie pharmaceutique réinvestit ses profits, en partie en tout cas, dans la recherche et le développement. La mafia, pas du tout. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle corrompt des fonctionnaires, elle va utiliser les paradis fiscaux, et bien sûr, elle déstabilise des zones et des pays où on fabrique, enfin, on produit, par exemple, les drogues, parce que il faut pouvoir les acheminer, etc. Donc, il y a énormément de criminalité dans ces pays-là. Je pense, par exemple, au Mexique. Donc, il y a des tas de coûts induits qui sont liés à la politique de la prohibition. Et l'économie apporte vraiment quelque chose pour essayer d'analyser pourquoi on en est là et comment on peut faire mieux. Donc, comment on peut faire mieux, très concrètement? À mon sens, il faut légaliser, parce qu'à ce moment-là, l'État va pouvoir contrôler ce marché, notamment aussi la qualité des produits, parce qu'il y a des overdoses, il y a des tas de problèmes de santé liés à l'interdiction. Et ensuite, il va pouvoir taxer, et donc avoir une politique de la demande, c'est-à-dire que les gens sont sensibles au prix, on parle d'élasticité prix de la demande, en termes techniques, ça veut dire juste que si le prix augmente, vous en consommez moins, et donc c'est un outil de régulation sociale, il y en a d'autres, comme l'information, l'éducation, la restriction des points de vente, etc. Donc je décline tout ça pour montrer en quoi l'économie peut être un vrai apport sur des questions de société et pas uniquement des barbus qui jargonnent dans un coin. Voilà, j'ai pas de barbe.
Vous n'avez pas de barbe, je le précise.
C'est pour ça qu'on a donné le prix. Voilà.
Merci, je savais qu'il y avait une raison. Par contre, Jérôme, il en a une, hein, je veux pas. Voilà.
on va tout de suite parler des clusters avec Jérôme Bisson, Kathleen Schubert. Juste un commentaire sur ce qui vient d'être
démontré là. Non, mais c'est exactement, pour ça. C'est exactement pour ça qu'on a donné le prix, parce que c'est un problème de société analysé proprement avec de la vraie théorie économique, des données et avec des recommandations de politique publique. Donc c'est exactement toute la chaîne. Qu'on veut voir.
Et vous l'avez dit, destiné aux étudiants.
Et les étudiants peuvent le lire.
Oui, je confirme. Même les non-étudiants, d'ailleurs, je confirme. Il est d'une lecture tout à fait abordable. Autre sujet très différent, mais l'objectif est le même. Hein, nous sommes toujours dans notre émission spéciale sur le rapport, au fond, avec la théorie économique dite académique et très fouillée, et la diffusion dans un plus large public. Avec vous, Jérôme Vicente, sur un autre sujet assez traité aussi, et ça tombe très bien d'ailleurs, parce que nous sommes dans cette semaine VivaTech en France. On touche là aux technologies et aux techniques les plus élaborées avec les clusters. Les clusters, on le rappelle, hein, ces fameux centres de compétitivité. Vous commencez par les décrire d'ailleurs. Jérôme Vicente.
Oui, alors comme disait Kathleen Schubert, j'ai essayé dans cet ouvrage de rendre beaucoup plus accessible l'ensemble des travaux de recherche que je mène, mais que l'on mène évidemment à plusieurs à travers l'Europe sur sur ces clusters. Pourquoi le rendre accessible? Parce que bah, d'un côté, on a besoin de s'enfermer un peu dans nos communautés universitaires pour essayer d'approfondir au maximum ce sujet, mais en même temps, on se rend compte que bah, la diffusion vers notamment les institutions publiques hein, se faisait un petit peu difficilement. Donc c'est à la fois un ouvrage pour les étudiants sur un sujet qui est assez peu traité en France, mais peut-être au-delà pour les institutions publiques qui justement essaient de favoriser ces nouvelles formes d'incitation publique à l'innovation.
Voilà. Ouais. Donc cluster, on l'appelle grappe industrielle, plus couramment je le disais pôle de compétitivité, et on fait constamment référence à la Silicon Valley, mais vous donnez bien d'autres exemples. C'est un point de départ quand même.
Oui, c'est un point de départ parce que ça permet de bien
en
comprendre
Californie, bien sûr,
de quoi on parle, hein, c'est-à-dire qu'on parle... On parle haute technologie, on parle success story, et on parle aussi d'un modèle que l'on essaie de répliquer depuis des années en France comme ailleurs en Europe. Si on prend le cas de Sophia Antipolis dans les années 80, on entendait dire dans les écrits que finalement ce système d'innovation devait être sur la French Riviera pour une simple raison, c'est que la Silicon Valley est au bord de la mer et de la montagne et qu'il y fait soleil.
Bon, alors avec là, dans un climat ouvrage, favorable.
Avec un climat favorable, à titre personnel, lorsque le climat est favorable, ma productivité scientifique diminue. Mais en tout cas, on a réussi à montrer depuis des années que c'était bien d'autres facteurs qui faisaient le succès de ces clusters. Alors, les pôles de compétitivité, c'est une contrepartie de politique publique. Les clusters peuvent émerger de même, comme ils ont émergé en France avant qu'on les labellise pôles de compétitivité. Donc, j'essaie dans cet ouvrage à la fois de refaire l'historique, puisque ça date quand même de la fin du 19e siècle, où on avait déjà, chez Alfred Marshall, les prémices que l'on retrouve aujourd'hui dans ces écosystèmes innovants. J'aime pas trop ce terme, mais dans l'écosystème, il y a cette notion un peu évolutionniste, et Marshall parlait déjà de système organique. Organique dans le sens où il essayait de nous montrer que dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, lorsque dans des industries, il y avait plusieurs entrepreneurs, il y avait plus d'idées, donc une probabilité de sélectionner les meilleures idées beaucoup plus forte que lorsqu'on avait une grosse firme fordiste où il n'y avait qu'un manager, qu'un entrepreneur, ce qui diminuait considérablement les effets de variété dans les idées, ouais. Et donc pouvait défavoriser l'innovation. Donc je parle de cette idée-là pour montrer comment progressivement on est arrivé aujourd'hui, depuis Porter au début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, à faire de ce concept de cluster le nouvel outil de politique publique en faveur de l'innovation.
Alfred Marshall, je vous interromps, Alfred Marshall appelait ça, je trouve que la formule est belle, une atmosphère industrielle, pour montrer comment elle pouvait être propice à la fois à la circulation de l'information, des connaissances, au lien très, très constant entre les différents acteurs économiques. Si on va un petit peu plus loin, quels sont les outils que possède la science économique ou peut-être d'autres disciplines d'ailleurs, pour analyser la performance de ces clusters, de ces pôles de compétitivité.
Aujourd'hui, l'outil que, alors, qu'à titre personnel, j'utilise, mais qui est utilisé également par d'autres et qui est mis en relation avec d'autres, c'est vraiment un cluster, ce n'est pas qu'une simple agglomération d'acteurs smart, intelligents et de talents, c'est aussi des effets de réseau entre eux. À la Silicon Valley, si on reprend tout l'historique depuis la fin des années 30, on arrive assez facilement à reconstituer les réseaux, et surtout cette porosité entre les frontières des réseaux académiques et des réseaux industriels, des réseaux du business. Donc ça, c'est un des points clés aussi de l'ouvrage, de montrer que c'est parfois à travers la porosité de ces frontières de réseaux que se situent des innovations, que se situent des capacités d'interaction, d'apprentissage collectif qui peuvent donner lieu à du nouveau. Et si l'on regarde aujourd'hui concrètement la politique des pôles de compétitivité, son objectif premier, c'était de densifier ces réseaux, d'inciter à la constitution de ces réseaux au-delà de la simple agglomération de proche en proche et d'acteurs innovants. En gros, pour le dire assez simplement, il y aurait un supplément de productivité à l'innovation caché dans la mise en relation de tous ces acteurs. Un supplément caché, plus qu'une simple agrégation de tous les talents individuels dans leur mise en réseau.
Oui, Kathleen Schubert, ce choix donc de ce deuxième lauréat, on dira un mot aussi du livre bien sûr de Jean Tirole, si on a le temps.
C'est parce que en fait tout le monde a l'air de penser que c'est génial de faire des pôles de compétitivité. Et donc je n'avais pas la moindre idée, d'ailleurs le jury non plus, si en effet ça marche ou pas. Donc ce qu'essaye de faire ce livre quand même, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des conditions particulières, qu'il ne suffit pas que les pouvoirs publics décident d'agglomérer à Sophia Antipolis des universités et des entreprises pour que
on parle beaucoup de Saclay, parisienne.
Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de montrer que c'est complexe, que c'est pas uniquement des questions d'économie, qu'il y a ces questions de réseau, que ça meurt un cluster, bon les districts district italien, par exemple. Et c'est ça qui nous a intéressés. Ça montre que c'est pas manichéen et que vraiment il y a besoin d'analyser plus, de façon très complexe ce qui se passe, quoi.
Oui, près de 10 milliards d'euros, je crois, Jérôme Vincent, c'est, selon France Stratégie, hein, c'est une étude relativement récente, la somme globale, hein, de tous les moyens. Mais c'est pour l'année 2014, ça a dû augmenter peut-être depuis.
Oui, c'est, alors c'est, le financement est assez complexe. C'est en réduction, mais alors
c'est en réduction.
Oui. Et la Cour des comptes a sorti un rapport récemment qui ne va pas en faveur d'un renouvellement à l'identique de cette politique. C'est en réduction, mais c'est quand même des sommes considérables. Mais alors au-delà de la critique que je fais des politiques de cluster en général, pas simplement en France, parce que d'abord les contraintes de l'éditeur, et à juste titre, c'est de pas trop focaliser sur la France pour essayer de diffuser les ouvrages à l'international, mais la critique que...
Et nous sommes en période de réserve, ça nous arrange aujourd'hui.
Exactement. Ça vient en complément de sommes beaucoup plus importantes qui sont attribuées, j'allais dire, à des aides individuelles. Par exemple, pensons au crédit impôt recherche. Théoriquement, le crédit impôt recherche, ça vient réparer des défaillances de marché, des incitations individuelles à l'innovation. Ben, on essaye avec ces politiques-là, pôle de compétitivité, French Tech, IRT et autres, et on a l'équivalent plus ou moins ailleurs dans les autres pays européens, on essaye de réparer d'autres défaillances, en fait, qui ne sont pas des défaillances de marché, qui sont des défaillances de réseau, des défaillances de système. Hein, on est dans un pays, en France, où il n'y a pas cette tradition de lien entre la science publique et l'industrie, par exemple. Ces réseaux ont du mal à se constituer. Les frontières entre la recherche académique et l'industrie sont pas très poreuses, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, ces formes d'incitation qui viennent réparer des défaillances de réseau ont du sens. Par contre, elles peuvent être assez mal implémentées et elles peuvent même aller à l'encontre de l'effet escompté lorsqu'on continue à financer, par exemple, les plus gros acteurs pour qu'ils collaborent ensemble. Parce que l'innovation, elle se situe parfois dans des collaborations dont on ne soupçonnait pas la pertinence. Donc, il y a peut-être une orientation trop conformiste des incitations collaboratives au sein des clusters, donc des financements publics à la collaboration, à la recherche et développement. Donc, c'est plutôt sur ça que porte la critique. La critique ne porte pas sur l'existence même d'une politique qui réparerait ses défaillances, mais plutôt sur la forme de sélection des financements que l'on fait, qui peuvent aller un petit peu à l'encontre de ces effets de... Enfin, des collaborations qui pourraient créer des innovations de rupture un petit peu plus fortes.
Les clusters, donc ambition, hein, contribuer évidemment à l'économie de la connaissance, puisque et également permettre aux frontières peut-être de s'estomper. Hein, vous avez parlé du rôle du public, mais finalement entre peut-être la frontière entre la science et l'industrie et entre les acteurs du public et du privé, tout ça devrait à terme, si on réussit le cluster, s'estomper. C'est aussi un début.
Au-delà de ça, une des choses qui est dite un petit peu implicitement dans le livre à la fin, le temps que des recherches plus explicites soient menées, c'est beaucoup plus en amont aussi dans les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche que ces frontières doivent être brisées. Alors évidemment, il se passe des choses intéressantes en France, hein, lorsqu'on reçoit des injonctions de se regrouper entre disciplines différentes, entre grandes écoles et universités, on commence à créer même ces réseaux sociaux entre l'industrie et l'université qui aujourd'hui ne sont pas assez pour eux. Donc il n'y a pas qu'une politique des pôles de compétitivité qui pourrait relancer vraiment le système d'innovation français, il y a d'autres mesures beaucoup plus en amont, mais avec toujours ce même objectif, c'est-à-dire parce qu'on est dans des systèmes technologiques de plus en plus complexes, hein, qui nécessitent l'agrégation, la complémentarité entre des connaissances qui viennent vraiment d'environnements différents, si on n'a pas cette confiance, si on n'a pas ces opportunités de rencontre entre ces acteurs sensiblement différents, on n'aura pas ces innovations de rupture. Donc la politique des pôles de compétitivité, sur le papier, était faite pour cela. Alors, il y a quelques défaillances, hein, c'est pour ça qu'à la fin, je dis aussi des défaillances de gouvernement, hein, au-delà des défaillances de marché, mais qui tendent à s'estomper aujourd'hui. Peut-être grâce à cet ouvrage et à ceux qui essayent d'expliquer.
Mais on l'espère, en tout cas, il a bien mérité son prix. Captain Schubert, un mot peut-être du bien commun de Jean Tirole, il en a été assez largement question au moment de sa sortie. C'est votre troisième lauréat.
C'est notre troisième lauréat. Alors, bon, c'est une somme. Donc, c'est une somme. Donc, je pense que je ne vais pas pouvoir vous détailler le bouquin. Mais ce qui était très intéressant, c'est que le début donne vraiment la philosophie de Jean Tirole vis-à-vis de l'économie. Donc, tout le début
prix Nobel, on le rappelle, bien sûr.
Ensuite, les différents chapitres reprennent ses travaux sur différents thèmes. Donc, pour nous, c'était moins original. Mais le début nous a beaucoup intéressés. L'ensemble est évidemment extrêmement précieux pour les étudiants parce qu'à la fois, ça montre des résultats très importants, mais aussi toute une démarche exceptionnelle, quoi.
et assumée est déjà ancienne.
Voilà.
Encore un mot, Emmanuel Auriol, avant de passer à vos chiffres, à tous les quatre. Sur les deux autres thèmes, hein, on a parlé du lien avec la drogue. Un mot quand même sur la prostitution et puis sur les migrations. On pourrait croire que ce sont des sujets quand même qui sont. Mais vous faites la même analyse.
Oui, alors je pars du même point de départ, c'est-à-dire qu'il y a des prohibitions, donc par exemple sur les politiques du sexe. Il s'avère qu'il y a quand même des très très grosses différences entre ces marchés et que mes recommandations sont très différentes aussi du coup. Alors en matière de sexe, hein, d'abord il y a un besoin de faire un rappel historique puisque c'est Solon le premier qui a essayé de réguler ce marché. Alors, on admire beaucoup les Grecs, mais enfin, il faut savoir que lui, il a acheté des prostituées, enfin, c'était des esclaves, donc il y avait de l'esclavage, pour protéger la pureté des lignées grecques. Donc, c'était de l'hégémonie. Enfin, bon, voilà. Donc, on peut les admirer, mais là-dessus, c'était pas très beau, très beau. Et donc, il a subventionné le sexe, c'était bon marché, et ça a permis, voilà. Donc, cette philosophie de réguler le marché du sexe, est passé du coup chez les Romains et puis chez les catholiques, par effet d'histoire, hein, contagion. Et donc l'Église catholique elle-même, avec saint Augustin, va dire ben, c'est un mal nécessaire, voilà, ça sent pas bon, mais c'est comme les latrines, il en faut dans une société, avec toujours cette idée de protéger les lignées. Donc, évidemment, les féministes vont s'opposer au XIXe siècle et au XXe siècle, on va faire des études de sociologie, les premières, on va découvrir que les prostituées sont des êtres vulnérables, misérables, exploités, et donc on va assimiler prostitution et bien sûr esclavage et puis en l'occurrence aussi misogynie. Et du coup, j'essaye de montrer que c'est un marché qui est quand même très très différent de celui des drogues. Alors là où le point
tout simplement parce qu'on a affaire à des humains. La drogue, est un bien.
C'est ça, oui.
Elle est un bien. On peut fixer son prix. C'est plus compliqué pour les.
Alors exactement. Donc le point d'achoppement, c'est le suivant. Si vous voulez légaliser le marché du sexe, que on pourrait penser quand on lit le titre du livre, eh bien le problème c'est que, moi ma logique c'est de légaliser pour faire en sorte que les mafias disparaissent. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir fixer un prix du bien ou du service, en l'occurrence c'est un service, qui est un prix d'éviction, c'est-à-dire un prix qui est suffisamment bas pour que les criminels ne puissent pas faire de profit. Or il s'avère que quelqu'un qui consent à fournir des services sexuels librement, le fait parce que ça rapporte beaucoup d'argent par rapport à ce qu'elle pourrait gagner à l'heure en faisant autre chose. Sinon, elle ne va pas le faire. Personne ne va faire ça si ce n'est pas bien payé, en clair. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé le marché du sexe, bêtement, comme l'Allemagne ? Eh bien, on a une coexistence du marché légal, avec des tarifs assez élevés. Et puis, sur le côté, on a des tas de pauvres filles qui se font exploiter, tabasser, droguer. Et donc, on n'a pas du tout ce qu'on recherchait. Donc, ce que je montre dans le livre, c'est que, vous voyez, le marché de la drogue et le marché du sexe, ce n'est pas du tout pareil. Et vous avez parfaitement raison. C'est parce que, dans un cas, il s'agit d'êtres humains. Et donc, si on veut assécher le crime dans ce marché-là, à mon sens, il faut le coupler avec une criminalisation des clients. Donc, le client
et donner un statut légal également, spécifique aux prostituées, ça va avec.
Donc, qui serait un peu pour moi comme celui de l'ordre des médecins, il doit avoir un ordre des prostituées, avec un caducée des prostituées, et à la charge du client de vérifier que la prostituée qu'il cherche à employer, elle est légale. Si c'est bon marché, si c'est dans un endroit interlope, c'est que c'est pas légal. Et là, il faut savoir que le client, donc en l'occurrence, risque de la prison, risque des condamnations et risque donc un casier judiciaire. Je pense qu'il faut être très ferme parce que ça veut dire qu'il participe à l'esclavage de quelqu'un. Donc voilà.
Merci Emmanuel Auriol. Sur les migrants, enfin sur les clandestins plus exactement, là on va passer plus vite parce que ça mériterait un développement plus large, mais je dis juste que vous suggérez la vente des visas, c'est là encore pour déjà rendre plus acceptable l'arrivée des migrants et pour surtout contredire et contrarier le travail des clandestins. Mais on verra les développements dans votre ouvrage qui sont tout à fait passionnants, je le rappelle. Y compris d'ailleurs pour l'ouvrage de Jérôme Vessante. Merci à tous les deux pour vos éclairages et on va passer à vos chiffres, j'espère que vous en avez. En commençant par celui de Guillaume Duval qui vous a écouté attentivement, notamment sur le statut que vous proposez, statut légal pour les prostituées. Je vous ai vu, Guillaume, réagir. Vous n'avez rien un mot à ajouter sur tout ce qui s'est dit là, au fond, puisque journaliste économique, vous avez peut-être un avis sur tout ça.
Non, mais je pense que c'est très important que la science économique et les chercheurs fassent l'effort d'écrire des livres, parce qu'ils écrivent surtout des articles, mais d'écrire des livres qui se destinent à la fois au grand public, là, dans le cas précis, c'est les étudiants, mais je pense qu'il faut effectivement éclairer le débat public avec les recherches qui peuvent être menées sur des sujets en particulier comme cela.
Merci Guillaume Duval. Votre chiffre, donc, alternative économique.
Mon chiffre, c'est 179, ou plus exactement 179%. C'est le niveau atteint aujourd'hui par la dette publique grecque rapportée au PIB du pays. Il faut bien mesurer le fantastique succès qu'a obtenu la Troïka, qui a pris les manettes de l'État grec depuis 2010. Cette dette ne faisait en effet que 103% du PIB juste avant la crise. 10 ans après, ce taux a quasiment doublé et ne montre toujours strictement aucun signe d'orientation à la baisse. Et cela malgré l'annulation de 107 milliards d'euros de dette en 2012 déjà, tandis que parallèlement, le PIB grec, et donc les revenus des Grecs, ont reculé de plus d'un quart, depuis la crise, et ne montre lui aussi aucun signe de redressement. L'un va bien sûr avec l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas de redynamisation de l'économie grecque qu'il ne peut pas y avoir de désendettement, et chaque nouveau plan d'austérité, comme celui qui vient encore d'être imposé aux Grecs par les créanciers en avril dernier, ne se contente pas d'aggraver les conditions de vie des Grecs qui sont déjà très difficiles, elle continue d'étouffer l'économie du pays et de faire reculer ainsi le moment où les Grecs pourront commencer à faire décroître leur endettement public. Mais de toute façon, cette dette aujourd'hui colossale de 315 milliards d'euros ne pourra jamais être remboursée, et chacun le sait. Les ministres des Finances de la zone euro en ont discuté une énième fois le 15 juin dernier. Un allègement avait été promis aux Grecs depuis l'été 2015 en échange de la reddition sans condition d'Alexis Tsipras à l'époque sur la poursuite de l'austérité budgétaire et des réformes qui remettent en cause la protection sociale des Grecs. C'est aussi une exigence du Fonds monétaire international. Le FMI considère à juste titre que financer un pays alors qu'on sait pertinemment qu'il ne pourra jamais rembourser les sommes qu'on lui avance, c'est de la cavalerie, de la mauvaise gestion. Mais malgré cela, l'Eurogroupe n'a pas encore réussi, une fois de plus, à avancer sur ce dossier jeudi dernier. Le fiasco de la crise grecque et la honte pour l'Europe que constituent les conditions de vie imposées désormais aux Grecs sont un des effets du manque total de contrôle parlementaire de la politique menée au sein de la zone euro. Si on veut que les peuples adhèrent de nouveau au projet européen, il faut démocratiser cette zone et alléger la dette grecque. Si ce pas est si difficile à franchir, c'est bien sûr lié à l'impact très fort qu'a eu notamment chez les Allemands les tricheries opérées par l'État grec avant la crise. Mais c'est aussi parce que cette annulation partielle de la dette grecque créerait un précédent et ouvrirait la porte à l'indispensable renégociation de la dette d'autres pays comme l'Italie, le Portugal, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle que la France pourrait et devrait jouer pour débloquer ce dossier, mais Dominique m'a demandé de ne pas en parler trop en cette veille d'élection.
Merci Guillaume Duval. Votre chiffre à Toulouse, Jérôme Vicente ou Emmanuel Auriol, très rapidement si vous le voulez bien.
Alors moi, ce n'est pas vraiment un chiffre, mais c'est dernier. Donc c'est la France en mathématiques à l'issue du CM1. On est le dernier dans le classement européen. Je trouve ça extrêmement inquiétant. On était bon en maths, on l'est plus. Donc c'est le classement de TIMSI 2016.
Merci Madame le professeur d'économie. Jérôme Vicente, le vôtre.
Alors moi, on va rester sur des questions européennes avec le chiffre 3. Parce qu'il y a en Europe, donc l'Europe des 28, trois pays où il fait froid, hein, le Danemark, la Suède et la Finlande, qui ont réussi ce miracle à la fois d'être en dessous des 3% du PIB de déficit, mais ça c'est peut-être pas très important, mais qui en même temps ont réussi à être au-dessus des 3% de financement public et privé de la R&D par rapport au PIB, qui est une injonction de l'Europe à l'horizon 2020, qui était déjà à l'horizon 2010, mais maintenant c'est trop tard. Donc seulement trois pays arrivent à rester en dessous de ces 3%. Donc bravo à eux et tant pis pour nous.
Et tant pis pour nous. Merci Jérôme Vicente, Emmanuel Auriol à Toulouse, Kathleen Schubert donc venue nous parler de ces prix de l'Association de sciences économiques. Vous aviez un chiffre, on va le dire très vite et très court.
C'était moins 40, je vous jure que je ne me suis pas concentrée avec Guillaume, c'est la baisse du salaire de mon collègue de l'université d'Athènes avec qui j'ai travaillé ce matin depuis le début de la crise.
Moins 40% sur son salaire, c'est QFD. Merci encore à tous les quatre. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine. Je vous recommande notre site préparé, documenté par Laurence Jeanne-Pin. Nous avons beaucoup de travaux à vous donner sur ces ouvrages dont nous avons parlé, sur beaucoup d'autres encore. Merci à Laetitia Coya avec Pierrick Monsigny qui a réalisé notre émission aujourd'hui, à Guillaume Duval dans Alter Echo. Il est question de code du travail. Et nous, dès la semaine prochaine, bien sûr, nous reviendrons sur l'actualité française. Très très bonne fin de semaine à tous.